Bonjour Mélissabelle.
Bonjour Anne.
Vous êtes la correspondante à Paris de la chaîne de télévision états-unienne CNN. On va parler avec vous de cette petite musique récurrente dans toutes les interventions de Donald Trump. Le début déjà d'une contestation. Alors ça n'est pas complètement nouveau, hein, ça fait partie de sa rhétorique depuis des années maintenant. Mais ça se renforce à l'approche de l'élection et évidemment ça inquiète beaucoup. Selon vous, quelle forme pourrait-elle prendre cette contestation en cas de défaite de Donald Trump la semaine prochaine ?
Alors, deux formes. D'abord juridique, et on le voit depuis 2020. Le nombre de procédures entamées par les républicains sont multipliées dans beaucoup dans plein de parties des États-Unis différents. Des procédures qui visent à mettre un doute sur la capacité des autorités locales à bien gérer les élections. Donc, ça peut aller à est-ce que des non-citoyens américains sont inscrits sur les listes, plein de procédures finalement qui mettent un doute. Donc, pour répondre à la question, d'un point de vue procédurier, on peut s'attendre, comme on le voit depuis 2020, à de nombreuses procédures très localisées pour soit retarder les décomptes, soit mettre un doute dans leur véracité, mais aussi le récit, en fait, qui est sous-jacent à tout ça, au-delà des procédures individuelles jusque-là entamées ou qui viendront en cas de défaite de Donald Trump. Il y a ce récit parmi ses partisans depuis mi-2020 qui est très récurrent, on l'entend tout le temps à ses bouches, dans les bouches de ses soutiens, que cette élection de 2020 lui avait été volée et qu'il se prépare d'ores et déjà, en cas de perte, à contester la prochaine.
Oui, c'est
et
ça, lui n'a jamais changé. Dangereux. Vous nous parliez de ces procédures. Actuellement, il y en a environ 130 dans 26 États différents, notamment pour vérifier les listes électorales. Est-ce que c'est uniquement pour alimenter un climat de méfiance généralisée, comme vous nous le disiez, ou est-ce qu'il y a vraiment des doutes ?
Je pense que c'est pour. C'est dans la suite, finalement, de son idée de 2020 que l'élection lui avait été volée. Et quand on regarde, quand les experts juridiquement regardent quels sont les résultats de ces procédures individuelles, ce qu'on constate, c'est qu'elles ont plus ou moins. C'est un échec. C'est-à-dire qu'elles sont très rares à avancer. Et ce qu'elles font, c'est qu'en fait, elles sont dans leur ensemble assez peu souvent gagnantes, ces procédures. Et ce que ça montre, c'est que finalement, ce qui compte là derrière, c'était pas tellement le problème de l'intégrité du système lui-même qui a tenu bon, qui malgré ces procédures continue de répondre la même chose, que les procédés sont les bons, que les listes électorales ne contiennent pas de non-citoyens américains. Le but de tout ça, c'était un récit, un fond, un doute dans l'esprit de tout le monde qui continue d'être nourri. Et par rapport à la prochaine échéance, on l'entend tout le temps répéter, si les démocrates gagnent, c'est qu'ils ont triché.
En tout cas, les démocrates se préparent à cette éventualité. On a appris cette semaine qu'ils avaient recruté plus de 10 000 avocats dans chaque État, donc des spécialistes en plus des lois locales. Il y a de grandes différences entre les différents États ?
Oui, chaque État fonctionne très différemment. Les républicains et les procédures dont on parlait à l'instant, Anne, ont été ficelées et organisées différemment selon les contextes locaux. Donc c'est très très compliqué et il y a effectivement des armées d'avocats des deux côtés qui se préparent pour la bataille qui suivra si Donald Trump perd. Ce à quoi on s'attend, c'est que s'il gagne, les démocrates, Kamala Harris, concédera la victoire. Ce à quoi on peut s'attendre aussi, c'est que s'il perd, il ne concédera pas.
Ça, c'est ce que confirmait un sondage qui a été effectué il y a quelques jours, selon lequel 72%, enfin je vous donne les chiffres de mémoire, c'était 72 ou 74% des personnes interrogées considéraient en effet que Kamala Harris reconnaîtrait la victoire. Et le chiffre était quasiment le même pour dire qu'au contraire, lui, Donald Trump, ne le ferait pas. Vous nous parliez donc de deux formes de contestation possibles. On a évoqué la contestation juridique. Quelle serait l'autre ?
La crainte de beaucoup, ce serait une répétition de ce qui s'est passé en 2020. C'est-à-dire que ce récit dont je parle, qui depuis 4 ans est localement très répandu, très bien organisé, des procédures qui sont entamées, mais aussi d'un point de vue local, pour les républicains, un message qui est constamment mis en avant de doute quant à l'organisation du scrutin localement organisé. Et ça, ce qu'on peut craindre, c'est que si les démocrates gagnent et que parmi les partisans les plus engagés de Donald Trump, il y a cette impression d'avoir vu leur élection voter, ce qu'on craint, c'est que ça puisse à nouveau déborder dans les rues, comme on l'a vu, en 2020, le 6 janvier, au moment de l'attaque sur le Capitole.
Est-ce que ce type d'événement pourrait se reproduire, pas forcément au Capitole, mais à un niveau plus local, dans certains États, ce qui serait peut-être plus difficile à contenir ?
Absolument, et peut-être plus localement que nationalement, vous avez raison, puisque des garde-fonds ont été mis en place justement par rapport au 6 janvier, par rapport à la certification, pour essayer d'éviter les débordements de la dernière fois, mais peut-être localement, on peut s'attendre à ça, d'autant qu'on parle d'une élection des plus serrées de l'histoire moderne des États-Unis. Donc, il y aurait de part et d'autre un vainqueur avec une majorité très grande, la question ne se poserait pas, mais ce dont on est quasiment certain, c'est que le résultat va être tellement serré, est tellement compliqué, tellement long à décrypter localement, en partie à cause des procédures dont je parlais à l'instant, que la tension qu'on sent déjà dans le pays à moins d'une semaine maintenant du scrutin risque, dans les jours du décompte et immédiatement après, de devenir plus grande.
Est-ce que Kamala Harris a raison, selon vous, de qualifier Donald Trump de fasciste ? Alors, je ne parle pas forcément en termes de stratégie de campagne, hein, mais est-ce qu'effectivement ça correspond à ses positions et à ce qu'il exprime en ce moment ?
Ce que constate beaucoup en écoutant ses propos, sa rhétorique, c'est que plus on a approché du scrutin, plus les langues se sont libérées. On a eu cet énorme rallye à Madison Square Garden dimanche soir avec toutes les controverses qui sont nées de ceux qui sont passés avant lui. Mais avec un langage toujours plus violent, ce qu'on entend de la part du candidat lui-même, c'est cette idée d'un deuxième mandat de la rétribution, de venir se venger de ceux qui lui ont, selon lui, volé la dernière élection de démocrate. Et quand il a été justement pressé sur ce point, l'ennemi de l'intérieur, ça sonne très totalitaire. Et on s'était laissé partisan. Il dit, mais non, il veut dire les immigrés qu'on veut mettre dehors. Non, il insiste. Non, je parle de démocrates en les citant. Et donc, ce climat-là, cette parole toujours plus autoritaire, cette dérive autoritaire qu'il promet, puisque ce qu'on attend aussi s'il gagne l'élection, c'est des changements pas simplement sociétaux, pas simplement économiques avec les tarifs qu'il propose, mais
une menace réelle donc sur le système lui-même, si je comprends bien ce que vous nous dites. Merci beaucoup, Mélissa Bell, d'avoir été en ligne avec nous.